A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast TFTC, TFTC le podcast. À mes côtés dans ce studio, Guillaume et Aurélien, comment allez-vous ?
Ça va très bien et toi ?
Eh bien, je vous réponds, parce que je sais qu'à l'époque je répondais
pas
forcément.
Tu réponds pas, c'est vrai.
Non mais là je réponds, pour cette nouvelle saison j'ai décidé de répondre.
Ah.
Et je réponds, ça va.
Voilà. Ça va.
Voilà ce que je
Est-ce que les gens qui nous écoutent peuvent nous répondre, répondez-nous, vous allez bien ?
Alors ça voilà, va ou quoi ?
Alors, l'année dernière vous vous souvenez, parfois il y avait des hors-séries. En plus des podcasts, enfin des épisodes traditionnels, des hors-séries dans lesquels tour à tour on donnait, enfin on conseillait aux gens des films qu'on aime ou pas, enfin plus généralement c'est des films qu'on aimait, et à chaque fois on conseillait également un son, etc. Et ben j'ai décidé que cette année on allait le refaire deux fois par mois, donc parce que vous savez cette saison on va revenir une fois par semaine, et ce qu'on va faire cette fois c'est un film chacun, parce que comme ça va revenir souvent, ça fera donc trois films par épisode. Je m'étais dit que 6 films ce serait un peu indigeste quoi. Ça va faire beaucoup, ça fait 12 films par mois, faut vous laisser le temps de les regarder si vous avez envie de les voir quoi. Donc un son, enfin 3 sons, 3 films, et ce qu'on va faire à chaque fois c'est qu'on va commencer l'épisode par 10-15 minutes d'actu ciné.
Allez.
Et quand je dis actu ciné ça va être ce qui est sorti au cinéma mais aussi les films qui sont sortis sur les plateformes si on a envie d'en parler quoi. Du coup, je vais faire un petit tour de table. On va commencer avec cette actu ciné.
Yes.
Qu'est-ce que vous avez vu récemment ? Je vais commencer avec Aurélien.
Eh bah, écoute, récemment, c'est un peu compliqué pour les nouveaux films parce que j'ai eu un petit problème. Enfin, un petit problème. Non, j'ai adoré, mais je suis tombé complètement fan du ciné-club pendant l'été. Donc, j'ai regardé beaucoup de films au cinéma, mais des vieux films.
Ah non, là, on parle d'actu ciné.
Je sais.
Non, t'as pas le droit d'en parler.
Et en vrai, récent, bah, j'ai creusé un peu et j'ai pas vu grand-chose. En fait, j'ai vu comme tout le monde.
Alors, on annule l'actu ciné. Non, et on va repasser sur le.
Non, en vrai, c'était pas en septembre, mais fin août, j'ai vu Gran Turismo. Vous l'avez vu,
Gran Turismo ? Ah, moi, j'ai vu Gran Turismo.
Et ben, moi, je l'ai pas vu.
Et bah, moi, je trouvais ça cool. En vrai, il y avait plein de références que j'ai bien aimées. Je trouvais ça plutôt bien réalisé.
Il faut préciser que c'est réalisé par un de mes réalisateurs préférés, Neil Blomkamp.
Exactement.
Qu'on connaît pour District 9 et plein d'autres films.
Chappie.
Exactement, que j'avais adoré Chappie.
Ah oui,
Chappie.
Et Elysium aussi, je crois, le truc avec Matt Damon.
J'aime beaucoup ce film aussi.
Plutôt science-fiction d'ailleurs, d'habitude. Mais voilà, Gran Turismo, un des films que j'ai vu au ciné pendant l'été, que j'avais trouvé quand même bien cool. Notamment les scènes de voiture, je trouvais qu'il y avait un côté jeu vidéo qui était bien retransmis, retranscrit. Après, j'avoue, moi j'ai pas du tout joué à Gran Turismo. Donc,
alors, déjà, justement, pour les gens qui connaissent pas, parce que moi je suis allé voir Gran Turismo en ne sachant rien de l'histoire.
Ouais.
Et pour comme ça balancer un peu le plot du film, en gros, c'est l'histoire d'un type qui est hyper fort au jeu vidéo, à Gran Turismo. C'est une histoire vraie. Hein.
Oui.
Il est hyper fort, et un jour, il y a un gars qui, dans le film, est interprété par. Pas James
sosie.
Franco, mais Orlando Bloom.
Bah, ton sosie, là.
Orlando Bloom.
Ah non, Orlando Bloom. Ouais, non, c'est vrai.
Orlando Bloom qui, je trouve, cabotine dans le film.
Ouais, c'est abusé.
Il cabotine à fond, il fait plein de phases, genre. Tu sais, comme ça, à la fin. Je sais pas, il
est minode. C'est chelou de ouf.
Il y a une minode, ouais. Et du coup, il a une idée, il se dit on va faire un truc, on va choper les meilleurs joueurs de Gran Turismo et on va leur. En fait, c'est un peu le GP Explorer, en fait, de Squeezie et de tout le monde. C'est un peu la même chose, quoi. Et on va leur donner leur chance, sauf qu'eux, ils vont courir vraiment avec les pros, quoi. Et donc ce gars a couru.
Ils font une école.
Ouais, voilà. Et bah, tu sais quoi, quand tu connais pas l'histoire, t'es pris par le film.
C'est assez stylé, ouais. Franchement, ouais. Le fait que ça soit une histoire vraie, le fait que les personnages soient assez crédibles et que, comme tu dis, il y a ce côté un peu GP Explorer qui maintenant est connu en France. Donc on a forcément une relation un peu spéciale avec le concept. Le côté très anglais aussi, moi j'ai bien aimé.
Ouais,
il y a ton sosie là qui est très bon, je me rappelle jamais, le mec de Stranger Things. Hein.
Oui. comment il s'appelle déjà ? Les gens le savent.
Oui. Patrick, je sais pas quoi, non ?
J'en souviens.
Pas Jason Patrick. Mais...
Oh là là. Mais en plus, on me dit tout le temps, tu ressembles à lui, je me rappelle même plus de son nom.
Mais j'ai trouvé que son personnage était cool. Et,
non, mais il est bien, lui.
J'ai bien aimé aussi.
Je le trouve très beau, moi, pas vous ?
Ouais, c'est.
Je sais pas, je demande.
Ouais, il est beau. Ouais.
L'acteur principal, je l'ai trouvé super bon. Et la relation aussi, un peu qu'il a avec la meuf, j'ai trouvé ça cool. Et très bonne réalisation des scènes d'action.
Moi,
même,
je dis, ouais, c'est assez cool. Quand la voiture est décolle, là, je trouvais ça.
Ouais, ouais.
Moi, je dis, bon film d'été, bon petit film d'été.
Ouais, bien sûr. Et en plus, ils ont bien expliqué le truc. Enfin, il y a le personnage du créateur du jeu qui est vraiment intégré, qu'on voit plusieurs fois, et ils expliquent un peu à quel point Gran Turismo, ça a changé. C'est un simulateur et pas un jeu de voiture.
Et d'ailleurs, t'as vu que dans ce film, il y a le. Alors, j'ai oublié le nom, hélas. Mais il y a cet acteur qui joue Joey Starr dans le film d'NTM.
Oui. Qui joue le français, là.
Qui joue le français, mais on le voit vraiment deux secondes avec
Parce qu'il perd. Enfin, il quitte très rapidement l'école.
Pour exactement. Je vais refaire un petit tour. Guillaume, c'est quoi les dernières choses que tu as vues nouvelles?
Alors, nouvelles, déjà, bon, vu qu'on parlait des films d'été, je vais vous raconter juste une petite expérience. Cet été, donc, j'étais en Creuse avec mes neveux. Je les ai emmenés pour une soirée. Mes neveux, ils sont petits. Hein. Ils sont genre entre 10 et 15, tu vois.
Ouais.
Et un soir, je dis bon, allez, ce soir, on se casse. On sort tous les trois, entre couilles. On va au McDo, je vous emmène au ciné, et on va voir En Autre et Trouble.
Quel alors, programme
quand t'es ado, quand t'es... Ah, ils étaient à Donf, et ils ont vu ce film. Bon, évidemment, c'était à Guéret, alors c'était en VF, pourquoi pas. Mais ça, c'est un film qui me dérange pas de voir en VF, je me suis dit bon. Alors, j'avais pas vu le 1. J'avais pas vu le 1, ça m'a pas manqué.
Bah moi, j'ai vu le 1 il y a pas longtemps, mais j'imagine que oui, tu peux voir le 2.
Oui, tu peux voir le 2, je pense que j'ai compris ce qui s'est passé. Et bon, alors, évidemment, c'était un peu... C'était, voilà, tu parlais de film d'été, pour moi c'est voilà, t'es là, bon, tu sors,
bien
c'est
sûr.
Cool. C'est un film d'été, très très cool, mes neveux ils ont adoré. Le dernier film que j'ai vu au cinéma, c'est Reality, est-ce que vous voyez ce que c'est?
Non, c'est quoi?
Reality, c'est avec, donc c'est le premier film d'une meuf qui s'appelle Tina Setter, et c'est avec une des héroïnes de Euphoria, qui s'appelle évidemment Sydney Sweeney.
Ah oui, c'est vrai, bien sûr.
Et en fait, j'avais vu la bande-annonce et je me suis dit, ouais, ça a l'air vraiment cool, ça a l'air d'être un bon thriller, etc. Et évidemment, dans les bandes pour alors... Bonne annonce un peu très alléchante puisque c'était que quelques images avec 2-3 phrases et des énormes mots genre éblouissants, incroyables, mm-hmm. The Guardian, des trucs de machin.
Je lis même plus les trucs comme ça. Ouais, parce que c'est dans tous les films, donc
oui, mais c'était genre...
Apostrophe flan.
Ouais, c'était genre réalisation hyper nouvelle, etc. Je me suis dit, oh, ça a l'air hyper cool.
Alors, effectivement, donc ça marche sur toi, ça, hein, encore.
Non, mais je me disais, ça avait l'air d'être... Déjà, l'héroïne de Euphoria, je la trouve super bonne actrice. Parce que je l'avais vue aussi dans la série White Lotus.
Ça aurait été manque, juste je la trouve super bonne.
C'est super bonne. Elle était aussi dans White Lotus et elle est excellente.
La première saison, ouais, trop
exactement.
Bien.
Et du coup, et ce film, alors, je savais pas du tout de quoi ça parlait. Je voulais pas le savoir. Je me suis dit, ok, c'est un thriller. En gros, il y a des agents du FBI qui vont voir une meuf qui a priori sans histoire et qui lui disent, bon, bah, tu sais pourquoi on est là? Elle dit non. Elle dit, t'es sûr que tu sais pas? Non. Et en fait, c'est une histoire vraie. Donc, c'est une meuf qui s'appelle Reality et c'est son vrai prénom. Son vrai nom, c'est Reality. Reality Winner. Alors, déjà, elle s'appelle Reality Winner, c'est un délire. c'est son vrai nom. Elle a 25 ans. Et donc, je m'attendais à un plot. En fait, quand tu vois la bande-annonce, tu dis, oh là là, ça va parler de ça. Ça se trouve, en fait, tu vois des images de son vrai Insta, la meuf. Et tu dis, ok, mais qu'est-ce qui s'est passé avec cette meuf? Donc, c'est très intriguant. Finalement, quand tu y vas, je pense que c'est un film qui s'adresse plus aux Américains qu'à nous, parce que c'est une histoire qu'ils ont connue, nous on l'a moins connue. En fait, c'est une meuf qui bossait dans une ambassade, enfin, si je retiens bien, une sorte d'ambassade, je sais plus. Et en gros, elle a des liens, ils ont retracé un peu sa vie, elle a un peu des liens, elle a appris le syrien, etc., etc. Et en fait, elle en a marre de la société dans laquelle elle vit, elle en a marre des États-Unis, elle trouve que les États-Unis c'est un pays affreux. Et dans son bureau, elle a tout le temps les actus. Et à un moment, elle tombe sur un article parce qu'elle a. Elle a accès à des trucs hyper secrets, et elle tombe sur un article disant que les Russes, ils ont aidé l'élection de Trump en faussant, etc. Et du coup, elle voit l'article, et c'est elle qui a imprimé l'article et qui l'a envoyé à un journal. Et du coup, le scandale a éclaté après elle.
Ah.
Et du coup, c'est une histoire hyper... En gros, elle a eu le FBI chez elle, etc. Donc, il y a tout l'interrogatoire. Il y a pas mal de bonnes idées de mise en scène, puisque souvent, par exemple, au début, ils bipent le nom. Donc, ils bipent de quoi elle parle. Du coup, on se dit, putain, mais de quoi ça parle, quoi, tu vois, quand tu connais pas l'histoire. Finalement, après, ça se transforme presque en documentaire, puisque finalement, on a tout son interrogatoire. Et la particularité, c'est que l'interrogatoire, il est retranscrit. En fait, ils ont appris l'interrogatoire. C'est-à-dire qu'ils avaient tout l'interrogatoire en audio.
Ah.
Donc, c'est l'interrogatoire retranscrit, où ils l'ont rejoué, en fait.
Ah, c'est
donc, c'est l'interrogatoire, voilà. Donc, c'est ça, l'idée de mise en scène qui est cool. Après, le sujet, je me suis dit... J'étais un poil déçu parce que c'est moins l'effet waouh que j'attendais. Genre, je me suis dit, elle a envoyé la lettre de ce truc. Elle a déjoué. Mais c'est méga important ce qui s'est passé, tu vois. Ça a déjoué un truc de ouf. Mais pour nous, les Français, on se dit, ah ouais, ok. Mais c'était bien. Franchement, c'est un bon film. Voilà.
Je te sens un petit peu déçu.
Mais ça n'a pas eu un succès de ouf en vrai, parce que vous n'avez même pas entendu parler.
Non.
C'est sorti quand ça? C'est
sorti là, il y a un mois, enfin cet été quoi.
Ah ouais,
fin août. Voilà. Et voilà. Mais j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Voilà.
Très bien. Moi dernièrement, alors j'ai vu Yannick de Quentin Dupieux, j'ai trouvé ça très drôle. et aussi très efficace parce que lui, en général, ses films, ils durent assez peu de temps. On est sur 1h10 à chaque fois, 1h05. Ouais. Donc, il a quand même ce truc. En fait, c'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'il a pris le pas sur les autres, enfin, sur son époque, je trouve, où j'ai le sentiment que les gens veulent des projets plus courts partout. C'est-à-dire que les jeunes veulent des matchs de foot plus courts, veulent des films plus courts parce qu'ils sont habitués comme ça, on le sait, à TikTok, etc. Et à consommer toute la journée des formats vraiment très rapides. Et lui, j'ai l'impression qu'il a... Alors, je ne sais pas s'il l'a fait exprès, mais j'ai l'impression qu'il capte ça en faisant des films plus courts pour captiver les gens. Quoi, tu vois. Et j'ai trouvé ça très drôle. Pour ceux qui n'ont pas entendu parler de ce film, c'est l'histoire d'une pièce de théâtre, une pièce de boulevard. La salle n'est pas vraiment remplie. La pièce est un peu nulle à chier. Il y a un type qui se lève à un moment donné et qui dit « Ouais, bah, c'est de la merde votre pièce. » Et donc, ouais, il se lève et en gros, il dit « Ouais, c'est de la merde votre truc. » Et après, il prend en otage les gens et il réécrit la pièce et il leur dit « Vous allez jouer ma pièce maintenant. Ouais. » Et il y a des moments qui sont vraiment drôles. En regardant le film, je me suis dit « Bah, Pio Marmaille, il est vraiment fort. » Quoi. Je n'avais pas vraiment fait attention à ça, mais il est vraiment, vraiment bon. Mais je l'avais dit dans le podcast précédent parce qu'on avait reçu Toledo Nakash, puis il joue dans Une année difficile.
C'est vrai.
J'ai vu La Palme, Anatomie d'une chute. Que j'ai trouvé très bien réussi. Le récit n'est pas bien construit. C'est vraiment un très très bon film. Malgré tout, je me suis dit, parce que j'ai eu la chance d'aller à Cannes et j'ai vu pas mal de films. Et pour moi, Ma Palme, ça reste un film qui s'appelle The Zone of Interest de Jonathan Glazer, le type qui a réalisé Under the Skin.
Ouais. Il n'est pas sorti encore celui-là ?
Non, il sort, je crois, fin d'année. Okay. Et il avait fait un film qui raconte le quotidien d'un camp de concentration, mais vu. D'habitants allemands qui vivent juste à côté du camp.
Ouais.
C'est vraiment un chef-d'œuvre, c'est extraordinaire. Donc je trouve que c'était plus une palme qu'Anatomie d'une chute. Et personne n'a vu Anatomie d'une chute, si ?
Bah non, pas encore.
En fait, le début du film, ça démarre avec. En fait, c'est l'histoire d'un type qui est retrouvé sur le sol en sang. Et en fait, on ne sait pas si c'est un suicide ou un meurtre. Et c'est la femme qui est accusée. Mais il y a tout un truc que je trouve hyper marquant pour ceux qui l'ont vu, c'est. Le film commence sur une instru de 50 Cent. Et en gros, le type est au grenier en train de bosser, en train de faire des travaux, et il écoute 50 Cent, mais c'est juste une instru. La musique, c'est...
C'est P.I.P.
P.I.P, voilà.
P.I.P.
Désolé.
Pimp. Le pimp, quoi.
Ah, le pimp, exactement. Et donc, il écoute ça à fond. Et en fait, ce qui me reste de ce film, c'est marrant, c'est cette instru, en fait. J'y ai pensé pendant plusieurs jours après, et c'est vraiment un truc qui m'a marqué.
Tu connais l'anecdote de ce truc ?
Non, vas-y.
Elle a dit dans une interview, Justine Trier, que c'était pas du tout la musique qu'elle avait prévue à la base.
Ah ouais ?
Et qu'en fait, vu qu'on lui a refusé la première musique...
C'était laquelle ?
Je sais plus.
C'est le podcast approximatif.
Podcast approximatif, la suite. Non, en tout cas, elle a dit j'avais vu ce truc parce que tout le monde lui disait waouh, c'est fou, t'as choisi 50 Cent, pourquoi ce choix ? Et elle a dit bah, je sais plus dans quelle interview. Il y avait un extrait qui tournait comme quoi c'était pas son choix principal, que le premier choix c'était un autre morceau et qu'il lui a été refusé, qu'elle a pas réussi à clearer. Donc elle s'est mise sur ce second choix qui était 50, alors qu'il y a plein de gens qui disent bah. Quasi, c'est ce qui reste le plus en tête dans le.
C'était un morceau de BTC, quoi. Je crois, non ?
c'était pas du rap.
C'était... Faut que je me lance dans un putain de freestyle.
C'était pas du tout du rap, en tout cas. Je crois,
et non, et en gros, et pour terminer, j'ai vu. Là, récemment, j'ai vu un film écrit par Sébastien Vanitschek et Florent Bernard, qu'on connaît, qui s'appelle Vermine, avec Jérôme Niel dedans. Et j'ai trouvé ça très cool. C'est un film d'horreur français avec des araignées. En gros, l'histoire, c'est. Des araignées qui envahissent une cité et en gros la police parque les gens dans cette cité, ils peuvent plus sortir et du coup les araignées se multiplient et deviennent de plus en plus grosses. Et franchement c'était vraiment cool. Quand tu vas voir un film avec des araignées, t'as toujours peur que ce soit un peu cheap au niveau visuel et là c'était assez réussi.
J'ai hâte de le voir.
Donc ouais franchement c'est cool, ça sort le 27 décembre.
Ah cool.
Et puis voilà, j'ai vu Sentinelle aussi, vous avez vu Sentinelle sur Prime ?
Eh non, pas encore.
Très
non.
Drôle, je trouvais.
Mais à Skip, c'est... Enfin, c'est
Non, mais le film s'est fait défoncer sur Twitter.
Bah ouais.
Alors, c'est parce qu'on en parlait justement, et c'est très drôle ce qu'il dit, parce que y a... Donc lui, il dit que c'est très drôle. Voilà. Il dit en story, c'est très drôle. Il y a des gens qui lui répondent, non. Ouais. Donc en fait, il y a quand même ce truc toujours qui nous fait marrer, en fait.
Alors, ouais, grave.
Vous avez le droit d'avoir un avis, évidemment, c'est pas un problème. Mais le truc de, j'ai trouvé ça très drôle. On peut pas remettre en question quelqu'un qui rigole, bah c'est comme quelqu'un qui pleure. C'est comme dire j'ai trouvé ça triste. Bah non, c'est pas triste, mais ça me fait pleurer en fait. Oui, bah c'est pas triste.
En fait, je pense que les gens oublient que le cinéma c'est la sensibilité de chacun.
Ouais, c'est clair. Et en fait, si ça te fait rire, ça te fait rire, c'est pas tout. Et alors ouais.
Oui, ça m'est arrivé de recevoir quelques messages genre bah non, c'est pas drôle. Bah en fait, j'ai pas faké tout seul chez moi, j'ai vraiment rigolé quoi.
J'ai rigolé pour de faux.
Tu sais, j'étais tout seul chez moi, mais j'ai rigolé pour de faux.
C'est trop bizarre.
Ça a pas de sens.
C'est le Joker.
Mais drôle, mais je ne rigole pas.
Mais non. Franchement, ça devient de plus. Alors on le savait, mais ça devient de plus en plus compliqué de débattre sur Twitter et je trouve que les gens sont de plus en plus agressifs. Moi, j'ai assez de chance parce que j'ai peu quand même rencontré des problèmes de ce type depuis que j'ai créé TFTC. Ce qui fait que les rares fois où ça arrive, parfois dans les échanges, je suis un peu choqué parce que tu sais, ça m'arrive pratiquement
jamais. C'est un peu violent.
Ouais, c'est violent et parfois, tu sais, t'as des... La dernière fois, je parlais d'Oppenheimer sur Twitter, tu sais, je me suis pris un connard, etc. J'étais là genre, waouh. Genre, excusez-moi.
Ouais, et à propos de quoi? Parce que t'avais...
Non, parce qu'en fait, alors, je vous raconte l'histoire. Parce que,
allez,
allez.
Je vous raconte l'histoire. Récemment, il y avait un article dans Première et Variety qui parlait des nouvelles... je sais pas des lois, mais en gros, il y a des nouvelles consignes.
Règles, les règles.
Des nouvelles règles aux Oscars. Et en gros, c'est des règles sur les minorités, etc. Et en fait, dans Première et dans Variety, il disait que pour être éligible au statut de meilleur film, un film devait montrer à l'écran et dans l'équipe technique, fallait remplir des cases, etc. Mais à l'écran, fallait au moins 30% de minorités. Et dans les 30% de minorités, donc il y a les minorités qu'on connaît, il y a aussi les handicapés, LGBT, etc. Plein de trucs et tout.
Ouais.
Et en fait, je suis parti d'une simple réflexion en me disant, avec toutes ces règles, avec toutes ces contraintes, est-ce qu'on peut encore appeler cette section meilleur film ? Parce qu'un film comme Oppenheimer, où il n'y a aucune minorité visible à l'écran, ne pourrait d'un coup pas être sélectionné en tant que meilleur film. C'est un vrai débat que je lançais, une vraie question, quoi. Mmh. Donc, une vraie question de cinéma. Et d'un coup, la majeure partie des gens étaient assez d'accord, etc., avec cette question. Mais il y en a qui étaient là, genre, « Connard, retire ton tweet et tout, tu vois. » J'étais là. J'envoyais les screens à Guillaume, tu sais, j'étais égaré, quoi. Tu vois. J'étais en mode, bah, tu sais, calmez-vous, juste on parle cinéma, quoi.
Ouais, c'est clair.
Et du coup, je suis allé voir un gars en DM et je lui dis, « Est-ce que tu, en vrai... Est-ce que pour cette simple question qui concerne Oppenheimer et les Oscars, est-ce que tu m'aurais abordé dans la rue en me disant « connard », etc. » Et le gars, il est là genre « bah oui, bien sûr, parce que franchement, je m'arrête. »
Bien sûr que non.
Arrête deux secondes. Quoi,
il va te croiser, il va dire « merci pour tout ce que tu fais, c'est vraiment légendaire. »
Mais ça arrive souvent, ça. Tu vois.
Bah, oui.
Mais même, tu sais, ça m'est déjà arrivé, ça m'est arrivé une fois dans le passé, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, ça m'arrive très rarement ce genre d'interaction. Mais ça m'est déjà arrivé dans le passé qu'un type me parle mal sur Insta. Et je vais le voir en DM et je lui dis, bah, tu sais, très sympathiquement, je lui dis bah, gars, tu sais pourquoi tu me parles comme ça? Est-ce que tu m'aurais parlé comme ça, tu sais, dans la rue si on s'était croisés et tout?
Ouais.
Et le mec, il était là, genre, ah non, trop pas en fait. Et au fait, j'adore ce que tu fais, etc.
Oui, ouais. C'est un classique ça.
Ouais, mais tu sais, ouais, t'as envie de leur dire, bah dans ce cas, pourquoi t'es comme ça? Pourquoi tu fais ça, quoi? Tu vois, c'est trop bizarre. Moi,
des fois, je réponds pas et d'un coup, j'ai un bah merci pour ta réponse, ça fait plaisir, tu sais, avec trois points et tout. Et pour le coup, je réponds et je dis, bah désolé, j'ai mon emploi du temps aussi.
Ouais,
ah,
c'est
mec, c'est trop bien ce que tu fais, j'adore. Et donc, bah frérot, dis-moi ça au lieu de dire.
Mais tu vois, par exemple, je reçois beaucoup de messages sur Insta et j'essaie vraiment de répondre à plein de gens, tu vois. Les gens qui me suivent sur Insta, enfin si vous m'écoutez, je vous ai peut-être probablement déjà répondu, etc. Parce que j'essaie vraiment de répondre à plein de gens. Et je ne peux pas répondre à tous les messages.
Bien sûr.
Et un jour, il y a un gars qui m'envoie un message, genre à 11h, et il me met « Ouais, j'aimerais bien que tu me prennes en stage, machin, etc. machin et tout. » Moi, le message, je l'ai lu genre 3-4 jours après, tu vois, il était dans les, les messages.
Ouais, ouais.
Ouais, voilà. Et en fait, il envoie ce message à 11h, et genre à 14h, il envoie 3 points d'interrogation.
Ouais.
Et tu sais, moi, j'ai répondu gentiment, mais tu sais, je lui ai dit « Regarde, je ne cherche pas de stagiaire, etc. Mais un conseil pour plus tard. » Tu sais, tu peux pas envoyer 3 points d'interrogation après comme ça. Il y a un petit côté un peu agressif de « Hey gars, vas-y, réponds à mon message. »
Adrien Méniel, il a fait une story à propos de ça en disant « Faut bien comprendre qu'il y a une boîte principale où c'est les potes, une boîte générale, bon, on sait pas trop ce que c'est genre des gens à qui tu parles mais qui sont pas forcément tes potes. Et après, il y a une boîte qui tombe dans les… »
Demandes.
Genre « Demandes ouais. envoyées. » Et maintenant, il y a une autre boîte que Insta a instaurée qui s'appelle « Demandes rejetées ou, un, ou message, je sais pas quoi. » Ouais. Et en fait, c'est les gens qui ont utilisé des gros mots, etc.
Ah ouais.
Donc ceux-là, tu les vois même plus.
Okay.
Donc en fait, faut bien comprendre que parfois on répond pas, mais c'est juste qu'on voit pas, ou juste que ouais, on sait pas quoi dire aussi, tu sais, parfois. C'est juste, parfois voilà, c'est comme ça. Mais la dernière fois, pareil, en général, moi j'ai très peu de messages méchants, mais la fois j'ai eu un message, moi j'aime bien répondre à un truc un peu vénère du coup, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire, ouais t'as raison, je suis qu'une merde, tabasse-moi et tout. Et du coup la personne est un peu gênée, je fais mais je rigole, je t'aime bien et tout, je fais bah alors fais-moi un câlin. Tu vois
non, moi,
et ça se termine comme ça.
Moi, j'essaie quand même de comprendre, tu vois, tu sais, d'être hyper calme et de leur dire, bah, gars, tu sais, franchement.
Oui, calmez-vous.
Mais en général. Mais par contre, pour revenir au. En fait, vraiment, le Twitter ciné, c'est une horreur, tu vois.
Oui.
Ouais, c'est genre, tu sais, les cinéphiles.
Même Twitter global, en fait.
Twitter global, mais
Twitter,
vraiment.
Pour moi, c'est la pire appli. Ouais.
Twitter global, mais le Twitter ciné, c'est une petite spécificité qui est horrible, quoi, tu vois. Tu sais, les gens, ils sont hyper connaissants. J'ai l'impression que c'est quand même de toutes les spécificités, parce qu'il y a le foot, il y a le rap, il y a plein de choses. Hein.
Ouais.
Il y a la politique. Ouais, bah, bien que la politique,
c'est... Attention, parce que Twitter rap, une fois, il a parlé d'Eminem.
Ah oui,
tout le monde s'en souvient.
Oui, oui. Non, mais...
sur Twitter, en plus.
Non, mais tu vois, il y a plein de choses. Oui, politique, je pense que c'est le pire, en vrai.
Ouais.
Mais Twitter ciné, il y a quand même ce truc où c'est hyper connaissant. Les gens sont d'une connaissance incroyable. Et d'ailleurs, ouais, Nemo a déjà eu des... des petits encarts comme ça avec des gens, des petits clashs.
Bah ouais, faut savoir que...
Moi, l'erreur d'Aurélien, c'est qu'il répond. Faut pas répondre sur Twitter. Mais moi, j'ai déjà fait cette erreur. Il faut pas répondre parce que, un, tu donnes de la visibilité.
Ça, c'est vrai.
Et deux, après, tu pars dans un truc interminable où tu gagneras pas de façon.
Je suis un gars du tunnel, moi.
Souvent, t'as l'impression que les gens qui répondent, c'est pas des vrais gens. T'as des comptes qui ont 7 abonnés, tu sais, qui sont là pour troller, un peu, tu vois, des comptes un peu bizarres comme ça.
Mais je rejoins Guillaume sur un truc qu'il m'a dit récemment. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, en 2023, les gens. J'ai l'impression qu'il y a plein de gens, ils sont derrière les buissons, parce que c'est Guillaume qui avait utilisé cette expression.
Ouais, ils sont derrière les buissons, ils attendent.
Derrière les buissons, ils attendent le moins de faux pas, tu vois. Attends, lui, qu'est-ce qu'il a dit, Oppenheimer ? Tiens, un connard !
Ouais, c'est ça, ils attendent que tu dises oula, c'est comme les fautes d'orthographe. Ah, il y a une faute ! Oui, bah d'accord, oui, bah excuse-nous, bon, pardon.
Tu vois, j'aurais été rien passé, c'est un truc de ouf, quoi. Tu vois.
Je sais pas, ils ont qu'à dans une petite pièce, là, insonorisée, et puis crier tout ce qu'ils détestent de la vie, c'est pas la peine de nous en parler à nous, on s'en fout. Nous,
mais tu vois, il y a quand même un truc maintenant où. Même si c'est pas des millions, tu vois, on a un certain nombre d'abonnés, etc. Mais parfois, j'ai encore envie de parler comme en 2014, tu sais, quand j'étais même pas sur YouTube ou quoi. Oui. Essayer de dire ce que je pense et de dire ce que je veux, et puis voilà, quoi, tu vois. Mais en fait, tu vois, le simple fait que tu lâches un avis sur les Oscars et Oppenheimer, ça crée des proportions terribles. Et là, c'était genre à 6000 likes le tweet, tu sais, il y avait plein de gens qui ont répondu.
Alors, il y avait plein de gens qui étaient aussi d'accord.
Ah non, mais franchement, c'était genre 95% de gens d'accord, voilà. 5% en désaccord, faut le dire quand même. C'est un peu comme quand tu as une mauvaise note à l'école et on se concentre sur tes mauvaises notes plutôt que sur les bonnes notes. Tu
vois. Bien sûr, bien
sûr. Là, c'était vraiment la minorité. Mais à un moment donné, j'ai effacé le tweet parce que je me suis dit, eh, regarde, ça me saoule d'ouvrir Twitter et de recevoir plein de notifications de gens qui débattent, qui s'insultent. Ouais. Donc, du coup, j'ai effacé et c'est un peu relou parce que je me dis, bah, est-ce qu'on peut encore vraiment débattre, tu vois, sur Twitter? Bah, j'ai pas l'impression parce que du coup, j'ai effacé le tweet.
C'était un débat de cinéma, quoi.
Ouais, c'est clair. Enfin, bon, bref.
Pour les Oscars, en plus, on s'en fout maintenant.
Écoutez, je pense que ça vient clore l'actu ciné.
Ah oui.
Ce petit débat. Et maintenant, on va pouvoir. Comme ça, installer ce format qui existait déjà, à savoir chacun, à tour de rôle, parler d'un film, là, pas d'un film récent, ou alors en vrai, ça peut être un film récent, mais d'un film qu'on a vu, dont on a envie de parler. On terminera par une musique conseillée également. Et je vais commencer avec Guillaume. Guillaume, quel est ton film? Et je te rappelle une chose, si tu as bonne mémoire, il faut donner une petite note sur 10 à la fin.
Ah oui, avec plaisir.
Et dire où est-ce qu'on l'a vu pour pouvoir le retrouver.
Alors déjà, avant de... Voilà, il y avait évidemment ce qu'on disait avant, il y avait plusieurs films dont on voulait parler, parce qu'on regarde souvent beaucoup de films, etc. J'ai vu A Scene at the Sea, on en avait déjà parlé.
Oui, dans mon livre.
Kitano, que j'ai trouvé exceptionnel.
Il est bien, hein.
Notamment la musique, j'ai trouvé incroyable. Ça, je l'ai vu. Ensuite, j'ai vu un autre film dont je parlerai peut-être, je le garde dans un truc, mais j'ai vu pas plus tard que cet après-midi.
Ah.
C'est ça qui est trop marrant, parce que c'est un film... Qui, bon, faut,
ah tu donc vois, là, tu as parlé d'un film que tu as vu il y a à peine
exactement. Okay. Il y a un film. Alors, voilà pourquoi je l'ai vu. En gros, déjà, souvent, on parle de films de mood. Tu vois, t'as dit, voilà. Il y a des films où tu dis, oh, je suis pas dans le mood, il fait beau, j'ai pas envie de le regarder, etc. Là, je vous préviens, c'est quand même un film de mood. C'est un film de mood, voilà. C'est un film dur à appréhender parce que le sujet est dur à appréhender. Si vous connaissez pas le sujet, c'est un peu compliqué, etc. En gros. J'étais sur Instagram et il y a un groupe, voilà, pour ceux qui écoutent du hardcore français, il y a un groupe qui s'appelle Kickback, voilà, qui a répondu, qui a fait un question-réponse. Voilà. Et donc le chanteur de Kickback, il a dit voilà mes 5 films préférés. Tu vois. Et je me dis tiens, je vais regarder son film préféré parce que c'est un groupe que j'adore. Et donc c'était Mishima de Paul Schrader. Vous l'avez vu?
Non.
Mishima, non, non
c'est vrai. Alors, c'est un film qui s'appelle Mishima puisque c'est pour l'écrivain. Yukio Mishima, qui est un des plus grands écrivains japonais.
Et Paul Schrader, tu nous rappelles, c'est le scénariste de Taxi Driver.
Exactement.
Qui a réalisé des films comme Hardcore, qui sont extraordinaires, etc.
Et donc voilà. Et donc je m'intéresse. Alors, il a eu donc la personne en question lui demandait, tu préfères l'adaptation japonaise ou le film de Paul Schrader? Donc il disait, je préfère celui-là. Donc, je me dis, je vais regarder. Mishima, c'est un des plus grands écrivains japonais qui a marqué l'histoire du Japon. J'avais déjà lu son livre Le Pavillon d'or, que j'avais trouvé hyper bien, où en gros il s'intéresse beaucoup à qu'est-ce que la beauté, etc. Donc tout le long, en gros, le film, il se divise en... C'est un peu comme Oppenheimer, il y a des scènes du passé, il y a des scènes du présent, il y a des scènes de la vie d'avant qui en sont entre les deux, et il y a des scènes qui sont des reproductions des scènes de ses livres où c'est carrément du théâtre. Donc c'est un peu compliqué, c'est pas un film où tu regardes et t'es à moitié sur, sur Insta.
Et on sait que c'est dur aujourd'hui ça, même quand t'aimes beaucoup le cinéma, c'est dur aujourd'hui de regarder des films sans checker ton tel un peu.
Exactement, et surtout quand c'est en jap, donc sous-titré, donc c'est pas genre j'entends la phrase, tu sais. Donc là c'est un film qui demande une concentration. En gros, pourquoi c'est intéressant? Parce que la vie de Mishima, donc c'est un écrivain japonais, comme je disais, qui est hyper connu, qui a fait un livre qui s'appelle Confession d'un masque. Il a eu une enfance méga protégée par sa grand-mère, tout chétif, un peu bègue, etc. Donc un peu rejeté par les autres, super protégé. Ensuite, il se dit, c'est pas grave, je vais m'engager un peu dans l'armée et tout. Finalement, ça le saoule, il se met à écrire des livres. Il écrit des livres qui sont des best-sellers absolus, qui le font connaître mondialement, etc. Ça devient un des plus grands écrivains du Japon. Et toute son œuvre, elle est traversée par... Qu'est-ce que la beauté, la recherche d'absolu, la recherche de pureté. D'un seul coup, il va se dire... par exemple, il a un concept où il dit le corps, à partir de 40 ans, il est obligé de mourir en décrépitude, etc. Il est très attaché au principe du passé, il est très attaché à l'impérialisme, il est très attaché au Japon d'avant, tu vois. Et il refuse absolument la modernité, à tel point que dans un délire... Bon, alors, attends, c'est très compliqué, parce qu'il est dans un délire mégalo où, en fait... de son image, de l'image qu'il renvoie, des films, il s'interroge beaucoup sur le théâtre, le cinéma, comment on personnifie, comment on monte la beauté, comment on l'écrit, etc. Bon, à tel point que vers la trentaine, il se met à faire beaucoup de muscu. Il devient, alors aussi une part de son histoire, c'est qu'il est homosexuel, qui s'intéresse beaucoup donc au corps de l'homme, etc. Il se met à se prendre en photo lui-même dans des poses méga explicites. Ça devient une sorte d'artiste total du Japon, méga respecté, parce que c'est pas du tout les mêmes rapports à l'artistique que chez nous. Du coup, ça devient tu vois, c'est un des mecs les plus importants du Japon, quoi. Ouais. Même en politique, c'est-à-dire qu'il est tout, on lui ouvre toutes les portes. Et il est tellement...
C'est situé à quelle époque, ça ?
Le film, il est en 85, et lui, il est mort en 77.
Okay.
Mais sauf qu'il est mort d'une façon très particulière, puisque c'est comme si, en gros, il s'était dit, comment je peux faire une œuvre totale de ma vie ? C'est-à-dire... l'écriture, ça me suffit plus. Je vais me mettre au ciné, je vais me mettre au théâtre, je vais me mettre à la photo. Et en fait, finalement, tout ça, j'arrive pas à exprimer ce que je ressens, ce que je veux ressentir. C'est un truc d'absolu. De toute façon, je veux. Et d'un seul coup, il se met à faire de la politique. Il crée une armée à lui-même. Donc, il s'est créé une armée à lui. Il y a des gens qui sont tellement fans, qui sont dans son armée. Et là, il se dit, je vais faire un coup d'État. Non, mais c'est sa vie, elle est incroyable. Voilà.
J'ai fait un coup d'État. Il a fait un coup d'État au
Japon. Il fait un coup d'État. Il va voir un coup d'État de l'armée. Il va voir. Il va voir un général, il le prend en otage et il dit je veux faire un discours devant l'armée parce que je veux le retour de l'empereur, je veux le retour des valeurs du Japon, on est en train de se perdre, lui il a des valeurs un peu de samouraï, etc. Il fait beaucoup de trucs à propos de ça, il fait beaucoup de trucs où même il a mis en scène sa propre mort dans des films où il n'y a même pas de dialogue. Ben ouais, c'est un artiste très très complexe, c'est difficile à expliquer, mais en gros il fait un coup d'état, il fait un discours devant l'armée et l'armée elle le trouve un peu ridicule. Il est là, je suis pour le retour de le truc à l'ancienne, vous êtes chaud ? Un peu ça, tu vois. Et d'un coup, tout le monde lui lance des trucs.
Bouh,
il dit non, c'est de la merde et tout, casse-toi, on veut pas de toi et tout. Donc en fait, de passer de artiste méga respecté, genre c'est le plus grand écrivain du Japon, il est connu dans le monde entier, finalement, on lui dit ouais, mais c'est ça, il est parti en couille en fait, ce gars. Ouais. C'est foutu. Et dans le bureau du général, il meurt en se faisant harakiri.
Wow.
Donc en gros, l'œuvre, elle est totale. Le suicide, il choque tout le Japon. Et on en parle, je regardais des articles du Monde et tout, ils sont encore là, mais alors c'était une démarche artistique, c'était une démarche de machin, etc. Pour lui, c'est une démarche de... c'est très, très japonaise dans l'esprit, genre, j'ai des convictions, mes convictions c'est ça, si vous en voulez pas, je reste pas, je m'arrache. Et je m'arrache, et du coup, ça fait, du coup, son suicide, il fait partie de son œuvre, ça a rendu tout son truc mythique, légendaire, etc. Et donc, pour revenir au film, le film, il vaut autant pour l'histoire... Mais il faut connaître un peu l'histoire parce que c'est quand même suggéré, quoi. Quand tu passes dans la fiction, il faut connaître un peu les bouquins et tout. Moi, j'en ai lu qu'un, mais les autres, ça m'a grave donné envie de les lire. Et en gros, pareil, dans ces bouquins, il y en a un qui s'interroge sur... En gros, le pavillon d'or, il dit... C'est un petit qui est très rejeté, qui est séminariste dans un temple, et il dit... il tombe amoureux. En gros, il dit, lui, il est imparfait de ouf. Il n'arrive pas avec les gens. Il bégaye. Les meufs, elles veulent pas trop de lui, etc. Ses parents, pareil, il est un peu nul, il est pas très bon dans tout. Et il se rend compte que le pavillon d'or, c'est le monument absolu. À chaque fois qu'il le regarde, il est ébloui. Il dit, mais un jour, je serai connu. Mais en gros, son concept, c'est de, j'arrive pas à être beau, j'arrive pas à être parfait. Le pavillon d'or, il est parfait. Je vais tuer la perfection et je vais devenir connu. Et c'est un vrai fait divers du Japon. Il a écrit un roman à propos de ça. Et il a brûlé le pavillon d'or. Et c'est comme ça qu'il est devenu, il s'est fait emprisonner, le petit, etc. Et donc, il s'interroge sur la beauté des monuments. Ensuite, il fait un autre livre où il s'interroge sur la beauté du corps. Est-ce que ça devient la décrépitude ? Etc, etc. Et après, jusqu'à la mort, ou genre comment on se donne la mort, etc. Et du coup, la réalité rejoint la fiction, puisqu'il l'a fait à la fin. Bon, bref, c'est très philosophique, mais j'ai adoré. J'adore. Déjà, l'œuvre de Mishima, je trouve ça incroyable. Même si c'était un ouf, et même si c'était un retour à l'empereur, il avait des valeurs hyper conservatrices, etc. Mais c'est une dimension qu'on peut pas capter, tu vois. C'est un truc très. tu vois, glorification de l'honneur, truc qu'on n'a pas trop en français. On est genre, ouais, bon, tu vois, mais ils sont très là-dedans.
T'as de l'honneur, toi, ou pas?
Mais non, mais tu sais, genre, tu sais, tout ce truc de, tu sais, mourir pour des idées, se donner la mort et tout. Et il y a des très belles scènes, et surtout qui sont reliées à ces textes, qui sont évidemment méga beaux, où il est dans une recherche d'absolu à se dire, en fait, la vie, c'est de porter des masques tout le temps. Il compare l'acteur à l'aviateur, etc. Pour survivre, il faut mettre un masque. On peut jamais être soi-même, etc. Il y a beaucoup de réflexions à propos de ça, sur l'image et tout. Bon, bref, c'est passionnant. Et voilà. Et le film, j'ai trouvé très, très, très bon.
Bravo. Sûrement que quelqu'un lâche une caisse maintenant, là.
Mais alors, surtout, alors attends, après, je vais vous dire une bonne chose. Je vais vous dire une bonne chose, parce que pendant que je regarde le film, d'un seul coup, bon, je reçois un message, et comme c'est un truc dans le groupe TFTC, j'écoute les messages et c'est JB qui fait sa note vocale. Il dit, je regardais, c'est un truc méga intense, et il dit, j'ai mangé ce Subway, j'ai la chiasse. Et moi j'étais en train de regarder Mishima, tu sais, dans des trucs de hyper absolu et tout, et je me disais, putain, mais en fait c'est ça la vie, tu vois.
Écoutez,
la vie, c'est...
J'ai commandé un italien bébé ce midi.
C'est la vie, c'est que tu passes du gars qui dit, ouais, quand j'étais en avion, je passais au-dessus des nuages, et d'un seul coup, la montagne, le ciel, tout ça m'appartenait, je ne faisais qu'un avec le truc, et il me fait, j'ai mangé ce bois, j'ai la chiasse, et c'est vraiment, j'ai fait, bon, ben, bah, tu sais, j'étais vraiment aux deux antipodes de la poésie, quoi.
Surtout, à quel moment c'est censé vous intéresser, ça, en vrai?
En fait, maintenant, j'envoie des. En plus, il n'y avait que ça dans le vocal.
Maintenant, on s'envoie des messages, il n'y a même plus de filtre. Non, il n'y a plus rien.
Enfin, voilà.
Bon, très bien. Alors, quelle note tu donnerais sur 10 à ce film?
Eh ben, je pense. Bah, c'est compliqué parce que en fait, il vaut autant pour l'histoire que pour le. Je dirais quand même un bon. Il y a des films comme ça où c'est compliqué de donner moins qu'une bonne note. Parce que
bah oui.
Bah oui.
C'est tellement une œuvre un peu absolue. Mais par contre, ça n'avait pas du tout rencontré le succès à l'époque. Et si tu mets 6, aussi tu très bizarre, qu'il est mort pour rien, c'est produit par George Lucas et Francis Ford Coppola.
Ah, c'est bon drôle.
Je me dis.
Bah, George Schrader aussi.
Ouais. Mais George Lucas. Enfin, tu sais, un projet méga éloigné de ce qu'il aime, je sais pas, en tout cas.
Après, eux, ils sont passionnés par Kurosawa et tout. Ouais. Tu vois, tout le cinéma japonais des années 60-70, tout est basé là-dessus, quasi.
Mais tu vois, il y a quand même ce truc Hollywood, où... Enfin, tu sais, quand tu mets le nez là-dedans, tu dis, wow, il y a tellement de trucs à explorer. Ouais. J'adore.
C'est ça qui est trop bien.
D'ouf. Et du coup, ouais, mais je suis obligé de mettre 9, quoi. Ouais.
Très bien, 9 sur 10.
Je savais même pas que ça existait, ce film, moi.
Mais tu vois,
c'est fou.
Et vous savez ce qu'on fait à la fin? À la fin, chacun, on fait un petit tour de table et on se dit, ah, on est chaud pour regarder quel film.
Ah oui, c'est vrai.
Bon, là, il y en aura moins, du coup. Tu vas terminer par un son que tu vas nous conseiller.
Ah oui, alors...
Bah, Kickback.
On est plus dans l'ambiance Mishima, mais... pour tous ceux qui aiment le hardcore, ouais, vous aimez le hardcore ici, bien sûr.
Bah oui.
Et bah figurez-vous que je devais les voir au Hellfest et ils ont annulé. Ils ont été remplacés par un groupe, tout petit groupe, mais qui avait cartonné, dont j'ai oublié le nom. Mais il s'agit d'un groupe new-yorkais, pour ceux qui s'intéressent un peu au nouvel hardcore, Triple B Records, etc. Il s'agit de Mindforce, et depuis cet été, j'écoute cet album en boucle. L'album il s'appelle New Lord, et le morceau il s'appelle New Lords, c'est le premier morceau.
Merci Guillaume, on enchaîne avec le film que j'ai choisi. Alors j'ai vu plusieurs films ces derniers temps et on en parlait avec Aurélien en DM et on se disait c'est dur de choisir un film quand même. Avant ouais, on avait clair. Trois,
ouais.
Mais là choisir un film c'est dur. Et il y a des films comme ça, des classiques qu'on n'a pas vus, on met du temps à les voir et quelque part c'est agréable de mettre du temps à les voir parce qu'on sait qu'il y a des classiques en attente, on en a déjà parlé. Et parmi ces films que j'ai en attente, il y avait Thief.
Comment on dit THC, c'est la langue entre les doigts.
Thief.
C'est dur à dire ça, Thief. Le solitaire, en français. Film de Michael Mann. Premier film de Michael Mann. Avant, il avait réalisé des courts et des documentaires. Mais là, c'est son vrai premier long métrage, 1981. Film avec James Caan, avec un très jeune Bellucci.
Ouais.
Attention, pas le Bellucci star. On parle du Bellucci qui joue avec Schwarzy. J'ai oublié le titre.
Double détente.
Double détente, bien sûr. C'est James Bellucci.
Ouais, James.
James Bellucci et aussi Willie Nelson, le chanteur de country qui joue dans le film.
Tout à fait.
Et donc voilà, en gros, Le Solitaire, c'est donc le premier film de Michael Mann que l'on connaît pour It, que l'on connaît pour Ali, Collateral et tous ces films-là. Et c'est l'histoire d'un type qui sort de prison et qui est un peu le boss des casses. C'est-à-dire qu'il est très élégant dans sa façon de faire des casses. Il vole pratiquement que des diamants. Et il travaille à son compte avec son pote Bellucci. Et en gros, il ne demande rien à personne. Il refourgue ses diamants et puis voilà. Un jour, il y a un problème et via ce problème, il rencontre un caïd qui lui dit « Gars, bosse pour moi et en gros, tu vas te faire des sommes beaucoup plus importantes. » Il n'est pas très chaud au départ. Et puis finalement, il se dit « Pourquoi pas ?» Parce que lui, son rêve, c'est de se poser en famille, enfin avoir une famille, construire une famille avec une meuf qui kiffe, qui est caissière dans un resto. Et il se dit « Bon, regarde, un coup, ça m'a apporté 800 000 dollars. Et puis après, voilà, c'est mon dernier coup et je me barre. »
On dégage.
Voilà, ça dégage et tout. Et... la suite, je ne vais pas vous la raconter parce que ça spoilerait l'ensemble, je pense. Donc ça, c'est le synopsis de départ. Et bon, moi, j'ai adoré le film. Et ce que j'ai adoré, c'est que pour ceux qui sont familiers avec le cinéma de Michael Mann, tu sens la patte Michael Mann dès ce premier film.
Ouais, en fait. C'est incroyable.
Dans déjà la musique, parce que c'est Tangerine Dream qui fait la musique. Donc il y a toujours une musique très spéciale dans les films de Michael Mann. Tu sais, cette musique un peu coucher de soleil, Miami, Los Angeles, un peu cool, etc. Tu vois. Dans les couleurs aussi, parce que pratiquement l'intégralité des scènes d'entrée, enfin des scènes d'intro, c'est lui dans sa voiture, dans les rues de Chicago, et puis plein de néons qui sont en réflexion sur le sol, sur l'eau. D'ailleurs, j'avais lu après qu'il y avait des camions remplis de litres d'eau qui déversaient de l'eau sur le sol pour que les néons réfléchissent dessus. Donc, il y a tout qui était pensé. Même la première scène, en fait, le film débute sur lui en train de percer un coffre-fort. Et en fait, il y a une sorte de... Alors, je ne sais pas si c'est une caméra qui est entrée dans un trou. Je ne sais pas s'il y avait ça en 1981 ou s'il a créé un grand coffre-fort avec une caméra qui rentre dans un trou pour un trompe-l'œil. Mais il y a quand même un truc où c'est le premier film du gars, il est jeune et tu sens déjà qu'il y a une patte, quoi. C'est-à-dire qu'à l'époque, tu vois ce film, tu te dis, bon, bah, il y a carrément un truc au-dessus au niveau de la réelle, quoi, tu vois. Ça, c'est assez impressionnant. J'aime bien les premiers films où tout de suite, tu sens la patte des gars. Il n'y a pas beaucoup qui ont réussi à faire ça. Il y a Spielberg, Scorsese, etc. Mais Mann, ça fait vraiment partie de ces gars-là qui ont eu leur patte tout de suite. Et donc voilà, j'ai trouvé l'ensemble vraiment réussi, vraiment cool, ce genre de film qui reste en tête après, tu vois. Et c'est le genre de film, moi qui collectionne les DVD, les Blu-ray, etc., c'est le genre de film où quand je le termine, je me dis, bon, allez, il me faut le Blu-ray. Et tu sais, il me faut une belle édition. Parfois, ouais. Je termine des films, je me dis, il me faut le DVD, mais c'est pas grave si c'est juste le DVD, tu vois. Parfois, tu termines des films et tu te dis, il me faut la belle édition Blu-ray, etc., parce que tu sais, c'est un film qui tout de suite compte, quoi.
Déjà, tu veux celle où il y a marqué Thief avec la belle typo. Exactement. Pas le solitaire avec une cible dans le haut, là.
D'ailleurs, Aurélien, hier sur Insta, il m'a appris une belle chose, une info très tabzienne après le film. Justement, tu parlais de la typo de Thief, le film. C'est la typo qui a inspiré la typo de Daft Punk.
Ah, c'est toi qui m'a dit ça. Ça m'étonne pas, ouais. Non, c'est pas moi.
Ah, ok, d'accord.
C'est trop bizarre, il a oublié.
Non, je t'ai parlé de la typo, en effet, mais j'avais pas cette info.
Mais tu m'as dit quoi sur la typo, alors?
Rien, j'ai dit...
elle est bien, typo. Elle est bien, ma typo.
Elle est vraiment super. Jean-Michel l'approximatif.
Non, et voilà, et j'ai adoré ce film, j'ai trouvé ça trop bien, il est resté vraiment en tête après. Et puis voilà, c'est trop cool. Et puis après, par la suite... D'ailleurs, c'est intéressant parce que ce film, c'est juste avant... comment il s'appelle son deuxième? Je crois que c'est Forteresse Noire qui s'appelle.
Ouais, voilà. The Keep.
Ouais, voilà, qui est complètement différent du Solitaire. Et je trouve que la patte Michael Mann, on la retrouve plus que jamais dans ces films-là, dans Miami Vice, dans Le Solitaire, dans Heat. Pour moi, ouais. C'est vraiment ça, les vrais films de Michael Mann. On la ressent moins, par exemple, dans Le Dernier des Mohicans ou ce genre de film, quoi. Tu vois.
Ouais, ouais. Même dans Ali, en vrai, on la ressent beaucoup moins.
C'est vrai. Et tu la ressens dans Collateral, cette patte aussi.
Bah, tous les sets de nuit, hein, t'en as parlé, mais exactement. Dès que c'est la nuit...
Et aussi, dans je les me disais, en regardant le film, j'ai rarement vu un gars filmer aussi bien la nuit des villes américaines.
Quoi, ouais, c'est ouf.
Il est vraiment trop fort pour
ça. Et des gueules.
Ouais, aussi, ouais.
Tu vois, Tom Cruise, il a jamais... Enfin, je trouve qu'il est différent dans Collateral que dans... Enfin, je l'ai jamais vu comme ça, quoi.
Et puis aussi, les scènes de... Alors, pareil, je me suis dit ça en regardant le film hier soir. Les scènes de fusillade, quoi, parce que on parle souvent de la scène de fusillade dans Hit, mais dans Le Solitaire, il y a une scène de fusillade à un moment donné, et c'est hyper bien exécuté, quoi. Ouais. Le mec, il est vraiment très très fort pour ça, quoi. C'est assez incroyable.
Puis il y a un côté réalité. En fait, moi, j'ai jamais vécu de fusillade. Je sais pas si c'est votre cas, les gars, ou pas, mais quand je vois un film de Michael Mann, j'ai l'impression que, tu sais, on me survend pas un truc comme dans les autres films d'action où t'as l'impression, tu sais, il y a pas les chargeurs. Ok, il peut tirer autant de balles qu'il veut, le gars. Ouais. Là, tu sens que, tu sais, ça paraît réel.
C'est dangereux, quoi.
Ouais, après, c'est vrai, mais il y a quand même une scène où à un moment donné, il y a une fusillade et le gars il se prend une bastos dans le ventre et puis il vole au ralenti sur un camion. Puis
ouais.
Bon, je sais pas si c'est comme ça.
Ça, c'est le côté peut-être plus film asiat, John Woo et tout, où il y a un peu plus de chorégraphie.
Et quoi, il est disponible sur quelle plateforme?
Tiens, d'ailleurs, ton film, où est-ce que tu l'as trouvé?
Je l'ai trouvé sur Canal Plus VOD, je l'ai loué.
Très bien. Combien?
2,99€.
Ça va.
Bon, c'est 2 quoi. Ouais.
Bah, ça va.
Moi, dès qu'il y a écrit 2, je suis bien.
Tu peux me citer un truc qui coûte 2,99€ dans la vie de tous les jours?
Bah, c'est un sandwich au McDo, non, même pas? Non, plus maintenant?
Non, c'est plus au McDo.
Ah ouais, wow.
Non, mais par exemple, t'achètes une viennoiserie à la boulangerie, bon, bah, c'est le prix d'un film, quoi, ça n'a pas de sens.
Non, mais les viennoiseries, c'est 1€.
Non, non.
Bon, t'achètes 2 pains au chocolat, un film.
Parfois, j'achète des viennoises au chocolat, c'est bien 2,50 à peu. Hein.
Ah ouais?
Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ça, très a bien. Augmenté, hein.
Ça a augmenté. Hein,
là, c'est le prix de Mishima.
Voilà. Une viennoiserie ou Mishima.
J'ai oublié de poser une question tout à l'heure, mais il y avait quoi dans les autres films de Kickback, là? C'était que les films comme ça, bizarre, ou il y avait
Ouais. Mais alors j'ai oublié le reste de la liste, mais faut que il y en avait cinq que j'ai pas vu, donc je vais tous regarder.
Ok, vas-y, c'est cool.
Et je l'ai vu sur Prime Vidéo.
Ah ouais. Oui, donc gratos.
Gratos.
Enfin, si t'es abonné, quoi.
Vous avez Prime ou pas?
Ouais.
Et ben, vous avez vu le film? Tu l'as vu, Guillaume? Ouais. Tu l'as vu?
De quoi?
Le Solitaire.
Mais non, justement.
Et ben, je te le
conseille. Je vais regarder.
Ah ouais, franchement.
Je donne la note de. Là aussi, c'est difficile, c'est un film de un peu de genre. Tu vois. Mais oui, un solide 8,5/10, t'es d'accord?
Ouais.
Ouais, super film. Et puis aussi, en ce moment, je suis dans une ambiance, je suis à fond dans une ambiance James Caan, parce que je me suis rematé Rollerball il y a 2-3 jours, et je l'adore cet acteur, il est trop fort.
Moi aussi, et en fait, c'est pas si souvent qu'il a un vrai rôle principal. Exactement. Où il peut jouer. Souvent, il est en double, ou alors c'est un second rôle, comme bien sûr dans Le Parrain et tout.
C'est ça. Voilà, pour ceux qui ne voient pas qui c'est, il a joué un second rôle dans Le Parrain. Mais peut-être son rôle le plus connu, on va dire que c'est Misery.
Ouais, bien sûr.
Ah oui.
Voilà,
bien sûr. Bien sûr.
Quel classique, Misery. Et donc voilà, et comme dans le film, il y a Willie Nelson, qui est un chanteur que j'adore. Je vais vous conseiller un son qui est dans un de mes albums préférés. Si vraiment je devais faire un classement de mes 15-20 albums préférés, je pense qu'il y serait. C'est un album qui s'appelle Good Times de Willie Nelson. Et d'ailleurs, je pense que t'adorerais le visuel de cet album, parce que c'est Willie Nelson en train d'apprendre à une meuf à jouer au golf.
Ah bah voilà.
Et le visuel, il est trop beau.
Et en plus, c'est la typo qui a repris Daft Punk, je crois, non?
Non, pas sur celui-là. Jean-Michel
approximatif.
Et voilà, et en fait, la chanson que je vous conseille, parce que pratiquement toutes les chansons de cet album sont bien,
ouais,
ça va être Down to Our Last Goodbye. This was my last mistake. That's all her heart could take. Now we're down to our last goodbye. Her lips won't kiss me now, the lips that I taught how. Now we're down to our last goodbye. Très bien, on enchaîne et on termine avec Aurélien.
Oui.
Quel film as-tu choisi?
Alors, vous le savez, on est vieux. Et donc, on a tous grandi.
Oh, c'est dur. Très dur ce lancement.
Ouais, on a tous grandi avec.
Attends, juste entre parenthèses, parce que Guillaume disait juste avant, c'est à partir de 40 ans qu'il y a une décrépitude du corps.
Ah ouais, c'est vrai.
C'est terrible, c'est relou ça.
40 ans.
Non, la phrase qu'il disait, c'est les œuvres d'art, elles restent, et l'homme, il est obligé de décrépir. C'est parce que tu peux. En fait, l'idée, c'est de dire, ouais, tu vas à la salle, tu t'entretiens, etc. Mais tu vas mourir moche, c'est obligé, c'est comme ça.
Alors, figurez-vous que tout à l'heure...
tu crèves.
Ouais.
Figurez-vous que tout à l'heure, j'ai lu sur Twitter... Parfois, sur Twitter, ils aiment bien poser des questions un peu... on a du mal à répondre, c'est genre la peste ou le choléra, quoi.
Ouais.
Je vais vous poser une question à rapport à l'âge, vous allez devoir me répondre. On s'écarte un peu du podcast, mais j'aime bien.
Ouais, vas-y.
Alors, vous préférez aller 15 ans dans le futur, donc vous ne vivez pas les 15 prochaines années, mais vous avez direct 50 millions. Donc là, vous arrivez direct à 55 ans, mais avec 50 millions. Ouais. Donc vous perdez 15 ans de vie.
54 pour moi, mais bon. Ouais.
60 pour moi.
Allez. Mais voilà, donc 50 millions, mais vous perdez 15 ans de votre vie. Vous arrivez directement à 54-55.
Right.
Ou alors, vous recommencez votre vie à 10 ans, mais avec votre cerveau de maintenant. Oh, en vrai, la question, elle n'est pas si évidente. Parce que franchement, revenir à 10 ans là.
Tu veux tout refaire ça,
ouais, faut tout refaire. Tout ce que j'ai fait là.
Oh putain.
C'est rôle. Alors déjà, les auditeurs qui nous écoutent, pensez à ce que vous choisiriez. C'est pas si évident.
C'est trop marrant si tu reviens à 10 ans parce que tu te fais gronder. Puis tu es là, mais non, mais.
Vas-y.
Je peux me faire gronder là.
Par contre, un truc qui est super, t'as 10 ans, Mais tu sais, il y a des meufs, tu sais, quand t'avais 10 ans, tu voulais sortir avec des meufs et tout, et tu te mettais des gros vents, t'avais trop peur et tout. Moi, je suis là, genre, vas-y, casse-toi, t'as 10 ans, bouffonne.
Oula.
Oh, pardon.
Oula, on peut-être pas le laisser ça.
Si, si. Oula. Non, mais en vrai, ça, j'ai rien, je vais pas sortir avec toi. Eh oh.
Eh oh, quoi, eh quoi.
Eh, j'ai 40 ans, ça va là.
Quoi, tu vas la forcer?
Bah non.
Bah alors.
Non, mais c'est comme dans Big, j'aurais le corps d'un enfant de 10 ans. Mais j'aurais même pas envie de sortir avec une meuf de 10 ans. En fait, ce qui est pas mal, c'est que t'es bloqué parce que t'as 10 ans, t'as le cerveau de maintenant. Mais tu peux sortir avec aucune meuf.
Bah non, oui. C'est
parce vrai que tu veux pas sortir avec des meufs de 10 ans et tu peux pas sortir avec des meufs de
4 ans. De toute façon, à 10 ans, je voulais pas sortir avec des meufs. À 10 ans, je jouais au J.J.
Mais non, mais t'as le cerveau de maintenant.
Hey.
Mais oui, mais t'as pas compris la question. Qu'est-ce que vous faites alors?
Bah. En fait, moi, j'ai envie de. On est obligé de faire l'un des deux.
Bah bien sûr, c'est la question tricky. Bah oui, bah c'est le but.
Non, moi, je reviens à 10 ans.
Bah moi aussi,
ah ouais, j'ai un peu plus de vie, c'est cool, je refais.
Et bah j'ai choisi ça, moi aussi.
Je revis les instants que j'ai trop aimés.
Oui, mais pas de la même façon, parce que t'as
pas de la même façon, mais en vrai. C'est trop bien en vrai.
Attends, tu recommences à 10 ans, mais quand t'avais 10 ans toi ou 10 ans maintenant?
10 ans. Ah, bonne question, Aurélien.
Parce que
ah,
si oui, c'est pour revivre le truc que t'as déjà vécu, c'est cool. C'est
non, tu reviens à 10 ans de 1972 pour toi, par exemple.
Oh. Tu revis l'ère mésopotamienne. Ouais.
Mais toi, j'ai l'impression que t'as envie de choisir le 50-50, toi. 50 millions.
T'adores la thune, toi.
En fait, les gars, c'est que je me dis, les 15 prochaines années, il va pas se passer des trucs de fou pour moi. Enfin,
ah, on sait pas.
Entre 45 et 60 ans.
On sait pas.
Bon, attends, mais c'est relou parce que là, t'arrives à. T'es claqué physiquement, quoi, d'un coup, quoi. C'est relou.
Ouais, déjà qu'on est claqué, là.
T'as 50 millions. C'est-à-dire que les 20 dernières années, entre 60 et 80, tu peux faire absolument tout ce que tu veux.
Ouais, mais je dis un truc, à 55
mais
ans.
Mais à 60 ans, t'as. Pff.
Non, mais 50 millions, j'ai même pas la force de les utiliser, je serais là, genre. Oh. Alors, à quoi bon?
Ouais, c'est vrai, si tu reviens à 10 ans, mais avec ton cerveau de 40, ça veut dire que t'es un génie. Donc.
En plus, je serais même pas tant que ça un génie, je crois. C'est ça qui est terrible.
Est-ce que j'aurais des meilleures notes à l'école?
C'est pas sûr.
C'est pas sûr.
Je me ferais battre par Jérémy, 12 ans, en CM2.
Ah, c'est horrible.
Non, par contre, si tu connais le futur, si on revit quand t'es petit.
Ah oui. C'est comme l'almanach dans Retour à la Futur.
Bah ouais, tu sais ce qui va se passer en fait. Donc
tu peux découvrir. Tu peux prédire le 11 septembre et tout.
Ouais, mais attention. Ouais. Oh, mais, alors, attention, j'ai une théorie là-dessus. Donc effectivement, tu reviens à 10 ans. Nous sommes à peu près en 92, 87. Mais Jurassic Park n'a pas encore existé.
Ouais,
d'accord,
ouais, ouais.
Donc tu as ce pouvoir de connaître l'histoire de Jurassic Park.
Ouais.
Aurélien, t'as le pouvoir de. Moi, je suis un producteur là.
Ouais.
Tu viens me voir pour me vendre Jurassic Park.
Ouais, mais t'as 10 ans.
Ouais.
Ouais, mais t'as 10 ans. Ouais, mais t'es un génie.
Bonjour, c'est parce qu'en fait j'avais une histoire.
Non mais alors tu viens, qu'est-ce que tu me dis? Vas-y, essaie de me le vendre.
Bonjour, j'ai une idée.
Ouais, vas-y, dis-moi.
Non mais c'est catastrophique.
J'aimerais faire un film.
Ouais, vas-y, continue.
Où en gros il y aurait une île.
Ouais. Dépêche-toi, j'ai pas le temps là. Déjà, t'as 10 ans déjà.
Où un grand millionnaire, milliardaire aurait réussi grâce à l'ADN.
Bon, allez, foutez-moi ce gamin dehors.
De créer des dinosaures dans
c'est
un
impossible.
Parc.
Ouais,
un parc
c'est impossible.
Et on l'appellerait Jurassic Park.
C'est impossible. Mais d'ailleurs, je crois que ce cas de figure, il existe dans un film, je crois, qu'a réalisé Dominique Farrugia, si je dis pas de bêtises, avec Cadmerade et Dubosc.
Ah bon?
Où en gros, ils reviennent dans le passé. Et je crois qu'il y a une scène où à un moment donné, ils vont proposer, je sais plus quel film, je crois que c'est Rocky, ou peut-être Jurassic Park d'ailleurs, Terminator, ou je sais pas quel film. Et en fait, comme tu l'expliques méga mal. Alors que tu connais le film par cœur, les gars ils sont là genre bah non parce qu'ils savent pas vendre un film quoi. Enfin bref, oui donc ton film Aurélien.
Ah oui, alors, vous le savez, on est vieux. Alors ce que je voulais dire c'est que on a grandi dans les années 80 avec les fameux films des années 80, Spielberg et les teen movies, à savoir nos films préférés c'est Retour vers le futur, c'est... Breakfast Club et je sais pas vous mais moi il y a toujours un moment où je me les rebatte tous donc la folle journée de Ferris Bueller, 16 Candles, tous les films avec Molly Ringwald ou avec
je crois savoir de quoi tu vas parler.
Ah ouais,
ouais.
Sauf que il y en avait un dont je me suis rendu compte que j'avais jamais vu en
okay,
fait.
Ok, d'accord, donc on a... je pensais que t'allais parler de On Golden Pond.
Non. C'est vrai que je l'ai vu hier. J'aurais pu dire, ah voilà, tiens, je pourrais mettre ça.
Ah bah oui, mais on en a déjà parlé.
Je crois.
Ouais, peut-être. Je sais pas si je l'avais.
D'ailleurs, faudra qu'on fasse attention, excusez-nous d'avance, mais ouais. Faudra qu'on fasse attention à ne pas ressortir des films qu'on a déjà sortis.
Ouais, non. Ah oui.
Non, moi je fais gaffe. Hein.
Mais tu sais ce que je vais faire tout. Je vais faire ce truc très pénible. Je vais reprendre la liste de tous les films dont on a déjà parlé et je vais la partager dans la con. Voilà. Comme ça, au moins, on est sûr. Ouais, voilà.
On fera un doc partagé.
Ouais. Avec plaisir, les gars.
On est bon vieux.
C'est clair.
C'est un groupe Facebook.
Donc en gros, bah voilà, j'avais maté, je pense, tous les films des années 80 et j'aimais bien les revoir. Et il y en a certains que j'ai vus même assez tard, notamment Ferris Bueller. Je pense que je ne l'ai pas du tout vu quand j'avais 12 ans, je l'ai vu quand j'avais 20 ans. Mais il y avait ce truc qui nous ramenait dans les années 80 où tout paraissait un peu simple. Il y avait toujours des choses qui se passaient dans des lycées, dans des écoles, et je sais pas, on trouvait ça... Déjà, c'était des lycées américains, donc ça paraissait toujours incroyable. Mmh. Il y avait des gars qui faisaient du skate, il y avait des Marty McFly partout, c'était un peu stylé.
Ils avaient des casiers.
Ouais, je sais pas, t'sais, après ça a été vachement repris dans les séries des années 90 ou la fin des années 80, donc c'est un peu tout l'imaginaire de notre jeunesse qui appartient à ces films-là. Et là, cette année... ça fait quelques mois maintenant, j'ai découvert un film que j'avais absolument jamais vu, que j'avais rangé dans, oui bon, c'est un sous-film de Ferris Bueller et tout, et si on n'en a jamais trop entendu parler, c'est juste que c'est moins bien quoi.
Ils disent.
C'est juste un truc qui a dû arriver après, et que genre j'avais pas vu. Je traînais dans mes listes là de films que je devais voir, et il y avait une affiche que je revoyais très très souvent, avec un kid qui ressemblait... à s'y méprendre à Marty McFly, à Michael J. Fox, donc même un peu à la Teen Wolf, avec forcément un petit...
Teddy.
Un petit Teddy, mais qui était accroché à une horloge. Et j'étais là, qu'est-ce que c'est que ce film ? Et le titre du film m'a toujours interloqué, c'était...
Ah, attends, je sais ! C'est pas les babysitters qui grimpent sur l'immeuble, là ?
Non, ça c'était l'aventure de babysitting. Ouais, ouais. Aussi que j'ai vu très tard, que j'ai vu grâce à Disney, oui. On peut le dire.
Super film d'ailleurs.
Et qui est très très bien, ouais. Aussi très cool, bah, qu'on peut ranger dans tous ces films des années 80, très feel good movies, voilà, coming of age et tout. Non, celui dont je veux parler, c'est 3 o'clock high. Personne n'a vu ce film ?
Ça me dit rien pour l'instant.
Un film de 1987, donc arrive très peu après Retour vers le futur, un peu entre Retour vers le futur et Retour vers le futur 2. Un film de Phil Johannou, un Irlandais, si je ne m'abuse, qui a fait un très bon film juste après qui s'appelle State of Grace, je ne sais pas si vous l'avez vu, sur la mafia irlandaise à Boston avec Gary Oldman et Sean Penn, que j'avais vu dans les années 90 et que j'avais adoré. Donc là, je me disais, trop bizarre. Le mec fait un feel-good movies, teen movies, alors qu'après, il va faire des films de gangsters, des polars, des trucs comme ça. Donc je me dis, étrange. Je suis un peu interloqué. Je lance le film, et le pitch, en fait, c'est un western, globalement. Ça commence par comme Ferris Bueller. C'est un jeune lycéen qui se réveille en retard, alors qu'il est censé ouvrir la boutique du lycée.
Donc dans les années 80.
Dans les années 80, c'est vraiment dans l'époque donc 87. Ça a les mêmes codes de Ferris Bueller, de Retour vers le futur. Il va à l'école, il est en retard, il ouvre le truc en retard. Donc, il se retrouve à avoir un gage et on lui dit, bah voilà, t'as merdé, t'écris dans le journal de l'école. Tu vas écrire sur le nouveau qui vient d'arriver, qui s'appelle Buddy, qui est la terreur, la bully, tu vois.
Pour l'instant, ça me chauffe. Toi aussi, Guillaume, ouais. J'imagine.
Donc, il se retrouve à devoir aller parler à ce gars. Et en fait, tout le monde a peur de ce gars. C'est genre, il vient d'arriver, tout le monde dit, il est sorti de... C'est un repris de justice, il fait flipper. En gros, c'est Kubiak dans Parker Lewis. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de références à Parker Lewis dans ce film après. Et donc, il flippe. Et en fait, tu te rends compte que comment c'est réalisé, comment c'est filmé, c'est pas du tout comme Ferris Bueller, super cool, avec des grands... à la John Hughes, soit pas du tout John Hughes. C'est très... ça fait flipper, en fait. Tu rentres dans la vie d'un lycéen où, en fait, sa vie... c'est de la merde, genre il se fait bully par tout le monde se fout de sa gueule, sa sœur, sa grande sœur, elle lui dit que c'est un nerd, un geek, ses potes, ils l'aiment bien, mais en même temps, ils lui mettent que dans des trucs un peu pourris. Et donc, il se retrouve à écrire, il doit écrire un profil sur ce nouvel arrivé qui est genre le pire gars. Et au moment de lui dire bonjour, il trébuche, il tombe dessus et il le fait tomber. Et là, le gars lui dit, qu'est-ce qui t'arrive, mec ? On se retrouve sur le parking à 3h et je te casse la gueule. Et en fait, tout le film, c'est ce mec qui s'appelle Jerry qui va éviter pendant toute la journée d'essayer d'avoir cette bagarre à 3 o'clock high. Et en fait, c'est une reprise scénaristique de Le train sifflera trois fois, le film de Gary Cooper, High Noon, où c'est pareil, il y a un timing et une heure. Et en fait, lui va essayer de tout faire. Mais
dans
vraiment
dans Ainung, c'est plusieurs gars qui arrivent, c'est pas un.
Exactement, ouais. C'est pareil dans 3h10 à Yuma, il y a un truc où il y a un train qui va arriver à un moment, tout le monde doit le prendre. Et il y a plusieurs. Enfin, tout le monde attend un peu ce truc, et t'as le côté horloge. Tout est réalisé autour de ce timing et cette horloge. Et en fait, ce qui est fou, c'est que c'est donc comme un western, sauf que tout ce qu'il va essayer de faire pour éviter de se battre avec ce gars parce qu'il sait qu'il va se faire péter la gueule. C'est nul, c'est une suite ininterrompue de dinguerie et d'absurdité. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a son pote qui lui dit « Attends, on va aller mettre un couteau dans, dans le casier du gars, comme ça le gars il va se faire virer avant que tu aies la bagarre, donc il sera pas là. » Mais en fait, bah, il se fait choper avec le couteau, donc c'est lui qui passe pour un mec qui vient avec un couteau à l'école. Donc le directeur, il le met de côté et au final, il va essayer de lui donner de la thune, donc il va piquer de la thune à quelqu'un. Non, mais en gros, c'est pour dire
que je veux le regarder.
Ça va être vraiment une suite ininterrompue de dinguerie, et en fait, c'est presque plus After Hours de Scorsese que Ferris Bueller. C'est-à-dire qu'il y a absolument rien qui ressemble à un truc un peu léger. D'ailleurs, c'est marrant
parce que
tout à l'heure,
quand t'as teasé, j'allais dire After Hours pour le poster, parce que je crois qu'il y a aussi une horloge dans
After Hours. Tout à fait. Bah, tout est pompé un peu sur After Hours et sur les westerns où vraiment il va y avoir un règlement de compte et tu sais qu'à un moment, il y a ce truc qui arrive et tout est monté un peu en exergue, en mode thriller. Et surtout, bah, les acteurs sont exceptionnels. L'acteur principal qui joue donc Jerry Mitchell, qui est le mec qui se retrouve dans ce tourbillon, il s'appelle Casey Simasco. Et en fait, on le connaît pas en tant qu'acteur principal, mais on le connaît pour avoir été dans au moins deux films qu'on connaît par cœur. Retour vers le futur, c'est un des mecs de la bande de Biff. C'est 3D, celui avec les lunettes 3D, qu'on voit donc dans le 1 et dans le 2. Et aussi, c'est un peu le bad boy méchant dans qui bully les quatre kids dans Stand By Me.
Okay, ouais.
Donc on le connaît pour des films très importants des années 80, des films aussi d'adolescents. Mais on le connaît comme le méchant. Alors que là, c'est l'inverse dans ce film. C'est un peu lui la victime, le nerd et tout. Il a l'air complètement à moitié éberlué. Et il y a toujours ce truc un peu de temps qui va très vite. Et c'est assez drôle parce que j'ai hésité entre ce film et un autre film de John Badham avec Johnny Depp. Je ne sais pas si vous avez vu, qui s'appelle Meurtre en suspens. Qui est un film où pareil, il y a ce truc du temps. Où genre sa fille se fait kidnapper et il y a... En fait, je sais pas, ces films-là, ils me hantent parce que tout est dans un temps réel, presque. Et en fait, ça te met dans une... Je sais pas, il y a un truc dans la réalisation, dans comment le réalisateur et les acteurs vont arriver à garder cette tension, en fait, que je trouve assez exceptionnelle. Et là, pour la petite histoire, ce qui est marrant, c'est qu'à la base, ça devait être vraiment un film teen movies. Spielberg produisait le film. Et en fait, quand il est venu au premier, aux premières séances, ça devait être produit par Amblin, mais il n'a pas trop suivi la production. Il n'était pas comme sur les autres films, les Gremlins ou même tous ces films où il était très très proche. Donc il a vu le truc arriver et quand il y a eu les premiers screenings, il a dit « Ah ouais, non, je ne veux pas être producteur, en fait, c'est trop noir. C'est un film, c'est une comédie noire sur la jeunesse. » Et en fait, vu que ça arrive assez tard, dans les années 80, il a dit « Ouais, non, je pense que ce n'est pas le moment pour moi de m'associer à un film de ce type, tu vois. » En tout cas, c'est la légende qu'il y a autour de ce film, qui est un peu une version black comedy de Retour vers le futur, de Ferris Bueller et tout, et que j'ai vraiment adoré, tu vois. Alors, ce qui est marrant, c'est que c'est aussi une musique de Tangerine Dream, comme Tiff dont on parlait, et il y a ce truc vraiment de tension et même d'absurdité qui est assez incroyable. Et moi, j'adore les films un peu comme ça, où ça commence et tu sais pas ce qui va se passer au fur et à mesure. Bah, un peu comme After Hours, un peu aussi comme Into the Night de John Landis.
Figure-toi que ça m'est déjà arrivé à moi, ce synopsis.
Ah ouais ?
Et ouais, et dans des conditions vraiment terribles parce que c'est en première. Et moi, à l'époque, donc, j'étais dans un lycée dans le 6ème. Et à l'époque, j'étais sorti avec une meuf qui s'appelait Sandra. Et puis, bon, je l'avais larguée, etc. Mais c'était une époque où je sortais avec quelques meufs. Et puis, ça pouvait être un peu agaçant. Parce que tu sais, je pense un peu comme toi, Guillaume. Tu sais, j'étais avec ma bande de potes, on faisait des vannes. Tu sais, je chantais avec des meufs, machin et tout. Hein ? Comment ?
Non, non.
Que t'étais une victime, toi ? Non. Et donc, je savais que ça pouvait agacer. Et donc, voilà. Et en fait, bac français, à la fin de la première, c'était dans un autre lycée. J'y vais, etc. Et là, je reçois un texto d'un gars, d'un pote qui me fait « Hey, mec, t'es dans la merde devant le lycée. Il y a machin qui t'attend. Il veut te défoncer. » Et en fait, ce gars, c'était le nouveau mec de cette Sandra. Et juste, il acceptait pas que sa meuf soit sortie avec moi, en fait. C'est pas relou ?
Ok.
Bah, vas-y, bah,
je fais ce que je veux. C'est un toxique, quoi.
Non, mais t'existais même pas avant, quoi. Ah, c'est relou, quoi. Et c'était un mec qui avait redoublé plein de fois. Et en fait, il était hyper massif, quoi. Tu vois, c'était un des mecs les plus baraques du lycée, quoi. Et du coup, moi, j'étais là, genre, bah, je vais me faire défoncer, c'est relou. Et puis, en plus, j'avais bof révisé le bac français. Tu sais, t'es vraiment pas dans les meilleures dispositions, quoi, tu vois. Et du coup, tu sais, j'ai fait des détours, je suis passé par derrière parce que je l'ai vu de loin, il m'attendait. Franchement, c'est un bel enculé de m'avoir attendu devant le lycée, quoi. excusez-moi de m'emporter. Mais bon, ouais, c'est là pour mon bac français, quoi, c'est relou.
Moi, j'avais une histoire aussi comme ça, un peu plus tard, où, donc c'était pas au lycée, mais il y a un gars, un jour, j'étais à un événement à Orléans, et il vient me voir, et il me dit, viens, viens là et tout, viens sur le côté, il faut qu'on discute et tout. Je sais pas qui c'est le gars, vraiment, aucune idée de qui est le gars. Et il me dit, ça va, tu te rappelles de moi et tout Et je fais, bah non, on s'est jamais rencontré, mec. Si, c'est bon, arrête de faire le malin et tout. Là, c'est bon, je suis sorti. La prochaine fois qu'on se voit, ça va être la misère, mon pote. Ça peut pas se faire comme la dernière fois et tout. Non. Je sais pas qui est le gars. Je suis genre dans un film. Je suis vraiment en mode genre, mais je sais pas qui t'es, mec. Je sais pas. Le gars, il fait, si, il t'a reconnu aussi. T'inquiète pas, là, il y a du monde. Mais la prochaine fois que je te vois, je te promets, ça va être la merde. Pendant 6 mois, les gars, je rasais les murs à Orléans parce que ce gars traînait tout le temps dans la ville. Et j'avais appris après qu'il y avait un mec qui me ressemblait, avec qui c'était battu,
c'est relou,
à Flunch. Ils avaient tout foutu en l'air à Flunch. Il y avait eu des histoires un peu de deal, de drogue, de je sais pas quoi, auxquelles j'avais absolument rien à voir avec tout ça. Et à chaque fois que je le croisais, en plus, on m'a raconté l'histoire. Ouais, il vient de sortir de prison. C'est un gars, il est chaud, faut que tu fasses gaffe et tout. Et, et donc, tous les week-ends, je prenais le train et souvent, j'essayais de me cacher dans le train parce que j'avais peur qu'il soit dedans. Genre, j'étais en paranoïa sur ce gars qui finalement m'a jamais mis autre chose que dépression, tu vois. Et au bout d'un moment, on m'a dit, ouais, il est retourné en sens, tu le reverras jamais. Mais genre, j'étais en mode, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? À quel moment je peux me retrouver dans un truc juste parce que je ressemble à un autre gars avec qui j'ai... Enfin, tu sais, j'étais pas
mais
dans la
vague. Mais c'est marrant parce que...
Moi, ça m'est arrivé la même chose, mais le contraire. J'ai donné rendez-vous à un gars pour le tabasser et tout. Ça vous fait marrer? Ah ouais? Ah ouais?
Tu l'as tabassé ou pas?
Mais non, pas du tout.
Non mais
je suis pas du tout un loupard.
Je me suis fait une réflexion l'autre jour dans le métro parce que moi, je viens du 93 et je me souviens que quand... je marchais dans Drancy-Bobigny ou quand parfois je prenais le métro quand j'avais genre 14, 15, 16 ans, je vivais quand même avec la crainte du racket.
Ouais, bah
je me suis fait racketter une fois, c'était en 6e, mais quand tu viens de banlieue, t'es en mode, bon, s'il y a des mecs là, j'ai mon téléphone et puis s'ils viennent m'embrouiller, etc. Je me souviens que j'avais quand même cette crainte un peu comme ça, lancinante, du racket quand je sortais, ou on sait jamais sur ce qui peut se passer. Quoi,
ouais, bien sûr, moi j'avais ça à Orléans aussi. Hein.
Et tu vois, le truc, c'est que à l'époque, je me disais, putain, j'ai hâte d'avoir 40 ans parce que là, je regarde les darons dans le métro, 40 ans, ils se font pas emmerder.
Ouais.
Tu sais, ils sont à la cool, quoi, tu vois. Et effectivement, maintenant, quand je sors dans la rue, j'ai plus du tout la peur du racket, quoi, ouais, tu vois. Et je me dis, c'est agréable de se balader dans la rue sans avoir peur de se faire racketter. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, je serais égaré que des caras viennent me voir en me disant, hé, hey, file-moi ton téléphone. Je serais là, genre, bah, les gars, j'ai 40 ans.
Ouais, quoi. Surtout si elles ont, tu sais, 15, 16 ans, t'es là, mais non, bon, allez.
Ouais, c'est ça, tu vois. Et donc voilà. Une note sur 10 pour ce film, Aurélien?
Bah, en fait. Il y a deux choses. J'ai adoré comment c'était réalisé. J'ai été surpris du plot, quoi. Enfin, de quelle direction ça allait, parce que je pensais pas du tout que ça partirait comme ça. J'ai adoré comment c'était joué. En plus, c'était quasiment que des acteurs moins connus, tu vois. Et j'étais extrêmement surpris de tomber sur ce film sans l'avoir vu avant, parce que je pensais avoir pensé ça. Donc, pour toutes ces raisons, je pense que je mettrai un bon 8.
Oh,
bien.
Et très bon réalisateur.
C'est une belle note.
Films,
hein.
C'est une très belle note.
Ouais, et en fait, pour faire un dernier parallèle, je pense que ça a pu inspirer des films à la Superbad, tu vois, où en fait,
d'accord,
les acteurs et les rôles principaux sont vraiment pas des gagnants, tu vois. Ce qui était le truc de John Hughes, où en fait, c'était un peu des losers, mais c'était quand même un peu dans leur propre monde, ils étaient forts, tu vois. Là, dans son propre monde, il est juste en galère, le mec. Mmh. Il est en sueur, il lui arrive que des merdes.
Mais donc, c'est-à-dire qu'on a tous les trois sorti des films à 8, 8,5 sur 10. Hein.
Ouais.
Bah, en même temps, il n'en reste plus qu'un, on va pas se mettre à parler.
Oui, c'est vrai.
Tout pourri.
Non, mais on peut s'autoriser, justement. Je me souviens qu'un jour, je m'en parlais toujours, Guillaume, t'avais parlé d'un film qui avait 2 ou 1.
C'était des merdes. Je me rappelle même pas comment il s'appelait.
C'était un film.
Un truc dans un collège, là.
Ouais, des collégiens, ils prenaient le contrôle du collège. C'était nul.
Ouais, voilà, on peut comme ça parler de film. Un son que tu conseilles?
Alors, c'est bizarre parce que ça va faire une liaison avec ton film, quelque part, Guigui. Tu vois pourquoi il y avait Tangerine Dream dans celui-là. Et là, je vais parler d'une chanson japonaise que j'ai découvert il y a très peu de temps, parce que j'ai découvert que c'était un sample. C'est un morceau qui s'appelle Blue et c'est tiré de l'album, je ne pourrais pas dire parce que c'est écrit en japonais, de l'artiste Michio Ogawa. Tokyo nagareteru fukai umi no soko mieta ri kakureta ri ore magaru hikari yura Et vraiment, c'est à moitié du jazz. C'est des trucs que j'écoute, quoi. C'est un peu jazz atmosphérique, un peu à la Shadé, j'ai envie de dire. Si on peut vraiment faire des grands
schématiser. Ouais.
Et c'est hyper cool. J'écoute que des trucs comme ça en ce moment. J'écoute des playlists de ce style. Ça me détend, j'aime bien. Et vu que je comprends rien au japonais, j'ai pas l'impression de l'être trop. Là, je pense qu'elle parle de la couleur bleue, mais pourquoi je ne sais pas.
En tout cas,
ça passe très bien.
En tout cas, musicalement et filmistiquement, on dit ça. On est parti dans tous les sens.
Ça,
là, vous
vrai.
Êtes régalé là.
Ah, ça, oui, vous êtes régalé.
Là, il y a beaucoup de trucs.
Sur quel film, sur quelle plateforme t'as vu ce film?
Je crois que j'ai ça pirate.
Oui, d'accord.
Illégalement, allez.
Oui,
allez. Oh, après, on apporte les menottes pour Aurélien.
Non, faudrait que je regarde si
les petites menottes.
Les petites menottes à Aurélien.
Non, mais en vrai, vous avez déjà entendu parler de ce film?
C'est
moi, j'ai vraiment découvert sur Letterboxd. Et je ne savais pas que ça existait. Je trouvais ça dans une liste et j'ai fait genre, qu'est-ce que c'est que ce film?
Alors maintenant, on doit choisir.
Ah oui, voilà. Alors
qu'est-ce
maintenant,
qu'on veut voir?
Alors, Guillaume, qu'est-ce qui te tente dans les films?
Bah, les deux, mais je vais dire Thief.
Très bien. Aurélien?
Bah, moi, Thief, je serais super content de le revoir. C'est un bon pote en plus, Thief. Mais je pense qu'il m'a bien. Michina, là.
Ouais, bon, d'accord. Mishima.
Oui, bah, je suis un peu nul.
Bon, il y a trois îles là, moi.
Bah, c'est intéressant. En plus, ça m'a interloqué Paul Schrader, tout ça.
Ouais.
Bah, moi, justement, je vais choisir le film de Guillaume parce que j'adore les films de Paul Schrader et je pense qu'il m'en manque pas beaucoup. Donc, tu vois, celui-là, ça faisait partie des films que j'ai pas vu.
Personne n'a envie de voir un bon film.
Non, mais en fait, ton film me chauffe, mais pour un mood. Parce que il avait raison, Guillaume, de parler de mood tout à l'heure.
Ouais.
Le film de Guillaume, je le regarde très concentré à 20h sur ma grande télé du
salon. Ouais.
Le tien, je le regarde dans mon lit avant de dormir. C'est, tu vois, deux moods différents. Quoi,
ouais, c'est vrai.
Donc
je
voilà.
Je vous donne le titre français quand même, qui est légendaire. 3h, l'heure du crime.
Bien sûr. C'est donc la fin de ce podcast. Podcast qui durera, je sais pas à combien de minutes on est, mais ça dure moins longtemps que les épisodes traditionnels. Mais il y en aura deux dans le mois, comme ça. Voilà, j'espère que vous appréciez ça. Le mot de la fin, Guillaume, un petit mot de la fin.
N'hésitez pas à nous dire sur Twitter si on est des connards, et puis
on vous répondra.
On vous répondra probablement pas. Voilà.
Vous allez manger quoi ce soir? Vous le savez ou pas?
Ah, ça part en pasta.
Ah ouais.
Prego la pasta.
Pasta quoi?
Je crois que c'est champignon crème, mais c'est pas moi qui m'en occupe.
Ah ok, super. Aurélien, tu as mangé quoi toi ce soir?
Pasta aussi, ouais.
Ouais,
pasta.
Ouais,
et toi?
C'est du pasta là.
Ben non, mais moi, vous savez, j'ai un Subway.
Après, avec le plus gars, après le Subway.
Non, je crois que je vais rien manger ce soir.
Ah, c'est la diète?
Ben non. Mais non, mais j'ai pris un peu de poids. Donc j'essaie de maigrir.
Mais t'as un nouveau défi surtout.
Comme vous savez, on est.
Ah oui, non, mais c'est ça, le mot de la fin. J'avais un mot de la fin, j'y pensais tout à l'heure en marchant jusqu'au studio. J'aimerais quand même dire que j'ai des amis talentueux qui sont dans cette salle et j'aimerais quand même faire la promo de Guillaume qui avec le Random est désormais au Jamel Comedy Club et je suis très
fier de toi.
Tous
les mercredis, merci beaucoup, c'est très gentil.
C'est tous les mercredis, allez le voir, il est trop marrant.
Oh, bah dis donc, et quoi, c'est, voilà. C'est ma fête.
Bah oui.
Et donc, les menottes pour moi.
Tu peux te dire, on n'est jamais meilleur que...
C'est horrible si tu fais genre, fais-nous un extrait de ton sketch là. C'est pas relou ça.
Comment ça commence?
Bon, allez, j'ai changé un peu. Non mais oui, bah, on est trop contents. Et en fait, le Random, ça fait depuis le 7 janvier que ça existe, 5 janvier. Du coup, c'est tout neuf. Et maintenant, on se retrouve au Jamel tous les mercredis. C'est un privilège de ouf d'être là-bas. C'est un privilège de ouf techniquement et genre, même pour tout ce que ça représente pour le Comedy Club quoi. Donc, on est trop contents. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir tous les mercredis, c'est à 20h. Vous trouvez toutes les infos sur ma page Guigui Hip Hop et sur la page du Random.
Ouais. Et Aurélien, t'as lancé il y a pas longtemps sur Combini parce que t'es chef musique sur Combini.
Ouais.
Et t'as lancé toute une série de vidéos sur l'histoire du hip-hop.
Eh ouais, c'est vrai. C'est les 50 ans du hip-hop cette année, je sais pas si vous savez les gars.
On est vieux, c'est ça que tu veux dire?
Ouais, non, c'est parce que ça me fait marrer, parce que chaque fois que je dis ça, maintenant,
on
me dit « c'est les 50 ans du hip-hop !» C'est devenu un peu une blague, mais oui, j'ai fait une dizaine d'épisodes avec des années charnières et des événements, des petits événements.
Et donc, on peut trouver ça sur l'Insta de Combini, et je sais qu'aujourd'hui, le rap est une des musiques les plus écoutées en France.
Tout à fait.
Donc, si vous voulez connaître l'histoire du rap, du hip-hop, Aurélien le raconte très bien.
Oh, c'est gentil.
Est-ce qu'il y aura un épisode sur BTC?
Bah, il est prêt, il va sortir là.
Faut que je me lance.
Il dénonce,
dans un
il dénonce.
Freestyle. Ah, je sais plus la suite.
Je sais plus ce que c'est.
Il va se lancer fort.
Non, c'était quoi le.
J'espère en septembre l'album dans les bacs, un truc comme ça. C'est, ouais, j'espère.
L'album. Non, franchement, je ne veux plus. Non, mais tu sais qu'il y a plein de gens qui m'avaient demandé à un moment donné de mettre les morceaux sur Spotify.
Bah, ouais.
Faudrait que je trouve le temps de le faire.
Oui, ah, bah, ouais. Je sais pas si ça manque à grand monde.
Alors, non, mais alors, je vais vous dire une chose. C'est peu, mais quand même. J'ai reçu sur Insta peut-être 7-8 messages. 7-8, hein. C'est beaucoup pour la suite. 7-8 messages de gens qui m'ont dit, gars. Ça me rend ouf. Alors, en général, c'est pas une bonne nouvelle pour eux.
Il a tout dans la tête.
Il faut, mec, ça me rend ouf. Il faut que je me lance en boucle dans la tête. Et je me dis, c'est infernal et tout.
Faut que je me lance.
Faut que je me lance dans un putain de freestyle. On est parti. Ah, c'est ça. On est parti d'un micro et on se retrouve en studio, ce qui veut rien dire.
Ouais.
On est parti d'un micro, on se retrouve en studio. En fait, je pense que j'écrivais au pif, tu vois. Mais
potentiellement, le micro est au studio.
Oui, voilà, le micro est au studio. Donc quoi, on est parti d'un micro et on se retrouve en studio. Ouais. Ça veut rien
parti
dire.
D'une maison, on se retrouve entre quatre murs. Oui, ouais, la même chose.
C'est
la même
chose. Pareil.
Je suis arrivé dans la cuisine, il y avait un placard.
Vous,
oui,
vous savez quoi, vous savez quoi, on va se quitter sur Faut que je me lance.
Allez, ah, avec plaisir.
Donc voilà, faut que je me lance. Avec la magie du montage, là, il y a Faut que je me lance pendant qu'on parle. Guillaume.
La magie du montage.
Guillaume.
Oui.
Pendant que ça rappe derrière. Eh ben écoute, bonne soirée.
Bah, bonne soirée, hein. Bonne soirée à vous, merci.
Aussi. Et on se retrouve. Bah jeudi prochain, parce que maintenant c'est tous les jeudis, c'est
ah
formidable.
Oui,
c'est bah
incroyable.
Oui.
T'as pas dit bonne soirée Aurélien par contre.
Vas-y, je dis bonne soirée Aurélien.
Ah bon, d'accord.
Allez, salute à tout le monde.
Ciao.
Prego.
Faut que je me lance dans le monde du show business, faire tomber toutes les firmes et arracher leur noblesse. Faut que je me lance pour devenir un homme d'affaires, dégager la concurrence pour être le seul sur la terre. Faut que je me lance dans des textes bien posés, dans des rimes bien lancées, dans un rythme travaillé. Faut que je me lance avec Shotub et Bouddha, pour des photos on posera, à la télé on passera. Faut que
je me lance.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.